que je dis tout le temps, la meilleure idée, c'est celle qui te ferait plus kiffer de donner, toujours. Donc des fois, c'est une question d'angle. Et la valeur est souvent plus dans l'angle, en fait, que sur le sujet en lui-même. Le sujet tout seul, c'est pas un sujet, en fait. C'est une croyance qu'il faut donner des sujets qui sont totalement inédits, c'est pas vrai. Un des biais qu'on peut avoir quand on commence, l'impression qu'il faut parler au plus de gens possible, c'est une bêtise parce qu'en fait, c'est à toi de savoir quel est le type de personne que t'aimerais voir à ton tour et de bien cibler ça. Comme ça, t'es sûr d'apporter de la valeur aux gens qui vont venir t'écouter.
Bienvenue dans Bicause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le voit bien et que vos clients aussi. Bonjour et bienvenue dans Bicause. Je suis Silvio Vasconcelos et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Julien Topsu.
Salut Silvio.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce que tu fais au quotidien?
Bien sûr. Alors je m'appelle Julien Topsu, je suis VP Tech chez Shodo. Donc c'est une SN, c'est un groupe de SN parisienne, nantaise, lyonnaise, lilloise et spécialisé dans le craft et le domaine driven design. Outre ce que je fais en transverse pour le groupe qui est amené avec les mandataires tech, la culture technique de Shodo, c'est aussi, je suis aussi consultant. Donc je fais pas mal de ce qu'on appelle social technical. C'est tout ce qui est l'alignement de ton organisation, de tes process, tes pratiques et de ce que tu développes vis-à-vis de tes besoins métiers. Donc je fais pas mal de conseils en strat. Mais je fais aussi toujours beaucoup de conseils de coaching technique et de la sécu aussi parce que je fais partie de l'OASP, je fais pas mal de sécurité applicative. Donc ça c'est pour ce que je fais au jour le jour. Et je suis aussi le cofondateur de Craft Records qui est un groupe communautaire qui aide les gens à se lancer en conférence. C'est un groupe qui a à peu près 5 ans maintenant. On faisait des meet-up à l'époque. Où on organisait du coup des soirées où on faisait des prêts aux gens sur leur donner des bonnes pratiques, comment se lancer et tout. Puis un jour on a décidé de shifter et pour avoir quelque chose de plus concret et d'amener des gens vraiment à créer vraiment des conférences parce qu'on avait du monde mais tout le monde ne se lançait pas. Donc on a créé les tremplins en fait en s'inspirant du Youngblood du Paris Jug qui a ce modèle-là depuis très longtemps maintenant avec Devox, qui est qu'en fait, on organise en amont de la conférence en fait, une soirée à destination de primo-oratrices et primo-orateurs, donc des personnes qui n'ont jamais donné de conf. C'est des personnes qu'on prend sur profil en dehors d'un CFP et qu'on accompagne avec des coachs jusqu'au jour J, dans la réalisation, trouver l'idée, réaliser le talk et le jouer devant le public. Et souvent, enfin, le deal avec la conférence, c'est que les talks les plus préférés de la soirée, en fait, se voient au programme de la conférence avec laquelle on travaille. Donc, on a organisé ça avec le camping des speakers, avec Mixit, Agile Tour Rennes, BDXIO, Agile Tour Bordeaux. Là, on a dans les cartons avec Cloud Nord. Je vais lancer DevQuest Niort avec bientôt. Agile Tour Rennes, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, il y a quand même beaucoup de conférences qui nous fait confiance là-dessus. Et à chaque fois, ça se passe très bien. On est très content de ça. C'est une alternative pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer, ne savent pas comment faire et qui permet en fait de pas se trouver en concurrence avec des oratrices ou des orateurs plus chevronnés quand tu postules parce que t'as pas forcément les codes sur comment faire pour te lancer, comment faire pour candidater. Et ben souvent même si t'aurais potentiellement une idée qui peut être super, peut-être que t'as une personne plus chevronnée qui va passer même si l'idée est peut-être un peu moins ou la personne a un petit peu moins d'expertise que toi parce que c'est une manière en fait de postuler, tu vois, pour que ce soit pertinent.
Comme vous pouvez vous en douter, vu la personne avec qui je parle, on va surtout parler de conf, de comment le préparer, et tu en as parlé de comment vous donner les conseils pour faire un talk, etc. Donc on va justement parler autour de la conf. En première question déjà, parce que tu parles de conf, tu parles de tout ce que tu as fait autour de la conf, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta première conf? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier?
Alors, le pied à l'étrier, je me le suis mis tout seul. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est que bah, forcément, quand tu fais ta veille, tu tombes très vite sur bah, des vidéos et des confs et des talks que tu peux trouver sur YouTube, etc. Et j'avais déjà assez naturellement, moi, dans les boîtes dans lesquelles je bossais, eu tendance à vouloir aider les gens en leur faisant, tu vois, des prêts sur des sujets. Donc, ça pouvait être sur la sécu applicative, ça pouvait être sur le DDD à l'époque, des trucs comme ça. Et quand j'ai vu qu'en fait tu pouvais toucher un public beaucoup plus grand quand tu pour parce que j'ai toujours aimé partager mon savoir, etc., je m'étais dit que c'était une manière de bah une enfin un truc que j'ai qui serait intéressant, tu vois, de pouvoir se confronter à un public auquel que tu connais pas forcément. J'y vois tout un tas d'intérêts, notamment le fait que tu confrontes ton savoir avec des personnes qui sont hors de ton écosystème souvent. Ça fait travailler d'autres types de skills, tu vois, notamment sur comment bien structurer une idée, comment la délivrer, etc. Donc, c'est des compétences que moi je voulais parfaire à l'époque. Étant ancien musicien, il y avait le côté créatif qui me manquait dans mon boulot, et sur le côté un peu créatif artistique, je veux dire. Et c'est un truc qui m'a permis de retrouver, tu vois, des sensations un peu de scène, etc. C'est pas exactement la même chose, mais.
C'est quelque chose qu'on ressent quand même dans tes prêts. Pour avoir regardé différentes prêts, toi, tu te démarques un petit peu parce que c'est, bah, comme tu le dis, c'est un peu plus scénarisé, je trouve. Tu t'aimes beaucoup tout ce qui est autour du cinéma. Enfin, on en reparlera après, bien sûr, ouais. Sur la mise en place d'une conf. Mais c'est vraiment un truc que j'aime bien en fait dans tes confs, par exemple. C'est vraiment, bah, c'est pas que une conf. C'est un peu un show. À moindre échelle, c'est pas non plus. Oui. Mais voilà.
Je pourrais expliquer aussi pourquoi je fais ça comme ça. Et dans les raisons pour lesquelles je fais ça, c'est aussi parce que je suis arrivé aussi à. Enfin, j'ai expérimenté pas mal de trucs dans ma carrière. Et des choses que. Enfin, tu vois, dans certaines boîtes que j'ai pu mettre en place, que j'ai pas vu forcément autre part. Et c'est des trucs auxquels je voulais. Pouvoir partager avec les gens, et je trouve que le format de la conférence c'est un des meilleurs formats pour le faire. Et donc et là je commence seulement à commencer à parler de choses qui sont comment dire plus avancées et peut-être un peu moins vues, comme mes dernières confs sur modèle Pintosis et ce qu'on avait fait à l'époque avec EatOS et REST orienté métier, qui est une autre conf que j'avais faite 2021 maintenant, ça remonte. Mais voilà.
Ok. Bah là, t'en parles, tu parles de différentes confs et tout ça. Moi, personnellement, et quand j'en discute avec d'autres personnes qui ne seraient pas contre l'idée de faire des confs, mais il y a toujours la première problématique, c'est comment tu as l'idée de faire une conf. Comment tu as l'idée de ta conf? Comment? Parce que ouais. En fait, c'est l'informatique, enfin l'IT en général, parce que c'est pas que l'informatique, il y a aussi toute la gestion de projet et tout, enfin qui fait partie de cet écosystème. Il y a tellement de choses, à présenter, il y a tellement de choses qui ont déjà été présentées sous différentes formes. Comment tu arrives à trouver une idée? Comment tu sélectionnes une idée?
Ok. Bah en fait, déjà, faut se poser la question de pourquoi on fait ça. Et ça va driver beaucoup potentiellement les sujets que tu vas présenter, je dirais. Si tu as envie de faire ça pour l'exercice de le faire, parce que tu veux tu veux te sortir de ta zone de confort, tu veux te confronter à un public et rentrer un petit peu dans ce travail de conférencier. C'est sûr que ça va être plus difficile de trouver une idée que si tu te dis, bah tiens, là j'ai bossé sur un truc, j'ai pas forcément vu ça autre part, et donc j'ai envie de le partager avec les gens. Du coup, là c'est un peu plus naturel quand tu es plutôt dans ce mode-là. Mais après, en fait, je pense que ton envie et tes raisons peuvent changer au cours du temps, hein, c'est pas le problème. Mais il faut se poser déjà la question, parce que des fois, c'est ça qui va nous donner, en fait, une première bribe d'idées. Et je dirais que, en fait, ce que je dis tout le temps, la meilleure idée, c'est celle qui te ferait plus kiffer de donner. Toujours. C'est vraiment ça. Après, donc en fait, tu peux trouver des idées dans plein de choses. Tu peux trouver des idées dans ce que tu sais faire. Tu peux trouver des idées dans ta veille aussi, parce que c'est aussi une manière d'apprendre en fait. Tu vois, ça, tu vas donner une conférence sur un truc sur lequel tu commences à faire de la veille, ça va te permettre de structurer pas mal et de faire des recherches et tu vas énormément apprendre. Toi, même quand tu connais le sujet et que tu fais une conf, en fait, tu apprends parce que tu vas continuer à chercher pour pouvoir amener de la profondeur. Et donc, c'est une manière d'apprendre aussi. Donc, dans ta veille, dans ce que tu aimerais apprendre, dans ce que tu sais autour de toi, tu vois que les gens ont des galères, tu vois, et, les problèmes que les personnes ont autour de toi. Ça peut être des sujets aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur quoi tu aimerais te positionner ? Et en fait, si tu veux, derrière ça, il y a deux choses, j'imagine, qui viennent à l'esprit des gens. La première, c'est « Ouais, mais est-ce que tu en as parlé ?» C'est « Ouais, mais si le sujet, il a déjà été traité. » Et l'autre, c'est « Ouais, mais en fait, et quid de l'expertise sur le sujet, en fait. » Parce que « Ouais, ok, il y a forcément des gens plus experts que moi. » Alors déjà, sur la partie « Le sujet a déjà été donné », c'est pas forcément limitant, pour plein de raisons différentes. La première, c'est que ce qui compte, c'est l'angle avec laquelle tu présentes le sujet. Par exemple, tu peux faire un talk sur l'architecture hexagonale. Oui, effectivement, des talks sur l'architecture hexagonale, il y en a déjà des dizaines, des centaines en fait, de disponibles. Mais si tu arrives à trouver le moyen de l'expliquer de telle manière à ce que les gens comprennent plus facilement ou tu vas aborder un angle différent. Par exemple, moi, le premier talk sur l'architecture hexagonale que j'ai fait, c'était via les tests, et parce qu'il y avait vraiment peu de conférences qui parlaient de l'archi-exa par les tests, en fait. Et toute la stratégie de test, en fait, autour de l'exa. Donc, des fois, c'est une question d'angle. Et la valeur est souvent plus dans l'angle, en fait, que sur le sujet en lui-même. Le sujet tout seul, c'est pas un sujet, en fait. Parce que quand tu dis architecture exa, en fait, tu peux parler de tout et n'importe quoi.
Ouais, bah c'est tellement vague que... Enfin, vaste, pardon.
Ouais, c'est ça.
Que, en fait, tu peux le prendre de différentes manières. Mais, alors... Là, c'est une question. C'est une question ouverte parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Chacun son point de vue. Est-ce que tu penses que faire une conf doit pas forcément avoir une plus-value pour le public qui va venir, dans le sens où moi, je suis débutant. Je suis un junior, mais j'ai vraiment envie de faire une conf. Mais je sais très bien que la conf que je vais donner, elle sera pas au niveau de ce qu'il y a à côté, et l'angle que je veux prendre, ouais, j'ai pas encore assez de recul pour me dire je vais le faire de manière qui n'a pas encore été faite, tu vois.
Mais c'est pas une question de faire d'une manière qui n'a pas encore, en fait c'est une croyance qu'il faut donner des sujets qui sont totalement inédits. C'est pas vrai. De toute façon, si tu regardes le programme des conférences, tu verras qu'il y a plein de gens qui ont donné les mêmes types de talks autre part. C'est pour ça que je te parle de l'angle, mais il n'y a pas que l'angle qui est important. Et aussi qui tu cibles, en fait, à qui tu veux toi apporter de la valeur. C'est-à-dire faire un talk sur l'architecture hexagonale pour des personnes qui n'en connaissent pas du tout, c'est pas le même talk pour que des personnes qui sont expertes du sujet. Donc un talk inédit sur l'architecture hexagonale, c'est peut-être des trucs qu'on t'a vu nulle part, mais ok, mais en fait si tu fais ça, il y a de fortes chances que tu vas t'adresser à des experts. Et en fait, plus tu t'adresses à des experts, plus tu vas être sur des niches de personnes. Et moins tu vas toucher de gens aussi, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas qu'une question de le talk qu'il a déjà été donné ou pas, on s'en fout. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas, en fait, les talks que tu as sur YouTube. Et dans leur veille, il y a des gens qui ne font pas ça. Tu vois, un corollaire de ça, c'est, tu vois, il y a des confs que j'ai donné 15 fois. J'étais même étonné parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, là, je suis allé donner en meet-up ma conf sur REST orienté métier, là, au JUG de Lille. Et cette conf, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, la conf, je crois, 3 ou 4 ans. Et je suis allé donner au DevFest Lille en 2021, tu vois, donc c'était il y a 3 ans, c'est au même endroit. Et bah, j'ai fait 100 personnes sur place. Parce qu'il y en a plein qui n'avaient jamais vu la conf. Pourtant, j'ai donné 15 fois, tu vois. Elle est disponible en 20 versions différentes sur Internet.
C'est que j'allais dire, sur YouTube, j'ai déjà vu. Enfin, tu tapes ce sujet-là, ça remonte en premier, en deuxième et en troisième.
C'est ça. C'est parce que, en fait, si tu veux, c'est une bulle, les gens qui regardent sur Internet. Il y en a peu, en fait, dans notre métier. Il y a des gens qui sont effectivement beaucoup sur Internet à faire de la veille très active sur les vidéos, et donc ils sont au courant que tu l'as donné plusieurs fois et que ils sont même capables de comparer la version de telle personne et de telle personne sur un sujet équivalent. Mais en fait, dans la grande majorité des gens, tu en as beaucoup qui n'ont jamais vu, qui font pas leur veille comme ça. Il y en a qui font pas de veille active parce que souvent, la veille active, dans ton boulot de tous les jours, on ne te permet pas de le faire. Tu vois. Donc, et c'est un choix perso de se dire je vais le faire ça sur mon temps perso. Et pour moi, tu n'es pas censé faire ça sur ton temps perso. Tu as le droit d'avoir un temps perso, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si tu veux le faire, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais tu ne devrais pas être contraint à faire ça sur ton temps perso, c'est ça mon point. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça. Et en fait, tu vois, si moi déjà, sur le même sujet que je donne à des endroits différents, j'arrive à toucher un public de personnes qui ne l'ont jamais vu, tu as fort à parier que sur un sujet qui a déjà été donné, que tu es capable d'avoir une audience qui va être intéressée par ce que tu dis et à qui tu vas apporter de la valeur. Mais pour apporter de la valeur, il faut déjà que ce soit clair pour toi qui est la valeur que tu vas apporter. Et souvent, c'est ce qui pêche. En fait, quand les gens ils ont du mal à scoper leur idée, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est la valeur qu'ils veulent apporter aux gens. Et de bien cibler en fait, les personnes que tu veux viser. Parce que tu ne pourras jamais viser, en fait. C'est à toi de filtrer. En fait. Il ne faut pas essayer de parler... Enfin, ça, c'est un des... Comment dire ? Ça, c'est un des... des biais qu'on peut avoir quand on commence. On a l'impression qu'il faut parler au plus de gens possible, tu vois, parce qu'on va attirer plus de monde. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce qu'en fait, tu vas attirer des gens. Il y a des experts qui vont arriver, il y a des débutants. Si tu es trop expert, tu vas noyer les débutants, ils ne vont rien comprendre. Voilà, ça ne va leur apporter aucune valeur. Si tu es débutant et il y a plein d'experts, en fait, les experts ils vont dire, mais en fait, on ne m'apprend rien, en fait. Et donc en fait si tu veux c'est à toi de savoir quel est le type de personne que tu aimerais voir à ton talk et de bien cibler ça, comme ça tu es sûr d'apporter de la valeur aux gens qui vont venir t'écouter. Il y a des techniques après pour cibler ça dans ton abstract et tout, j'en parlerai après, mais ça permet justement de s'assurer que tu vas apporter de la valeur aux gens, parce que sinon en fait tu vois quand j'ai fait mon talk sur O2 qui est des exemples de la vie réelle pour des personnes, même pour des personnes non tech, si tu prends un expert O2. Bah, et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, mais qu'il y a des mecs qui connaissent en fait un peu la technique, mais qui n'avaient pas tout à fait raison sur ce qu'ils disaient. Ils disaient, ah ouais, mais en fait, à ce moment, il ne se passe pas exactement ça. Bah oui, mais quand tu fais de la vulgarisation, bah tu prends des raccourcis, parce que si tu rentres dans toute la complexité de ce que le truc complexe, en fait, tu noies les gens. Toi, quand tu regardes des documentaires à la télé sur la physique quantique, en fait, ils ne parlent pas comme si tu étais un physicien quantique.
Ouais, mais clairement, je suis très friand de la vulgarisation. C'est pour ça que ta conférence au haute, j'ai vraiment bien aimé. Et en effet, si tu t'intéresses au sujet, pour moi, c'est une porte d'entrée.
C'est ça.
Et après, exactement. Si tu t'intéresses au sujet, bah, tu fais de la veille. Tu fais de la veille sur le sujet principal. C'est vraiment. Je te présente le sujet pour que tu puisses comprendre juste la globalité du truc. Maintenant, à toi de faire l'effort d'aller sur la suite.
Bah, c'est faire l'effort. Je peux aussi donner des... Enfin, moi, ce que j'avais donné à la fin, c'était par exemple des pointeurs qui allaient sur le site de 2.1 pour justement permettre aux gens d'apprendre plus en profondeur ce que c'est. Et permettre aux gens aussi de se rendre compte des potentiels raccourcis que j'ai pris, parce que c'était... Enfin, faut savoir que présenter ce truc-là en 45 minutes, c'est aussi un challenge en soi. Et je voulais juste revenir sur un autre truc, c'était cette histoire de légitimité qu'on se pose souvent et de se dire « Ouais, mais je suis pas expert. » En fait, ça, c'est un... Enfin, c'est pas du tout un syndrome de l'imposteur, même si les gens l'appellent comme ça, parce que c'est plutôt un manque de confiance en soi. En fait, on se donne toute une image de ce que c'est que donner des confs. On a l'impression que c'est des gens, ils ont une autorité de malade, tout ça, et en fait, rien du tout. On est pareil. C'est la grosse différence, c'est qu'on le fait et que les autres le font pas, en fait. Il faut juste se lancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la légitimité de présenter un sujet, elle est plus liée au fait que tu vas travailler pour bien le présenter que le fait que tu es un expert sur le sujet, en fait. Parce que un expert sur le sujet, c'est pas forcément quelqu'un qui va réussir déjà à très bien vulgariser le sujet. Ça va pas avec, tu vois. Et je dirais que en fait, tout le monde, enfin, du moins que tu as une expérience, ou même si du moins que tu as fait rien qu'un travail, tu as un sujet que tu ne connais pas, tu as allé chercher des sources, tu as agrégé les ressources, tu as réfléchi à comment le présenter, etc. Ça a de la valeur. C'est ce que font les journalistes. Hein. Les journalistes, sauf si c'est sur BFM, mais généralement, ils vont chercher un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et ils essayent d'avoir un truc qui tient la route. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout le monde a la légitimité de proposer des choses et à présenter des sujets. Et on le voit, et en fait, tu le vois tous les jours, parce que dans ton travail. C'est-à-dire que quand tu as une personne à côté de toi, un collègue, qui ne sait pas quelque chose, tu ne te poses pas la légitimité si tu as, en fait... Enfin, tu ne te poses pas la question si tu as la légitimité de lui répondre à sa question. Tu vois, un truc tout bête. Moi, j'ai accompagné des personnes qui, quasi sorties... Enfin, j'ai une collègue, la Juliette, sortie d'école, au bout de 6 mois, elle donne sa conf à Devox sur Junit 5. Enfin, elle peut se dire, bah ouais, mais junior, etc. Mais c'est pas le sujet, en fait. En vrai, elle a creusé le truc... Et elle va s'adresser à des personnes, alors peut-être pas à des gens qui ponçaient Junit 5 déjà depuis un moment. Bon, c'est un taux qu'on avait fait tous les deux à l'époque, mais on s'est adressé à des gens qui, justement, étaient encore en Junit 4, tu vois, et qui n'avaient jamais passé le pas. Et donc, en fait, par rapport à eux, bien sûr que tu as une plus-value, tu vois. C'est à leur apporter. C'est ça le truc. Donc, ta légitimité, c'est une question de qui tu cibles, en fait. C'est plus ça.
Ok. Alors, ouais, du coup, on a déjà parlé de beaucoup de sujets, hein. Mais là, on a parlé de légitimité, mais on est resté quand même dans la généralité de la conf, ouais. C'est-à-dire, bah oui, on va présenter quelque chose. Mais comment en fait tu passes de j'ai une idée, j'ai ciblé mon public, je pense, je sais que je veux faire du TDD pour les débutants, ouais. Ou du TDD intermédiaire, des trucs comme ça. Mais comment tu arrives à passer de j'ai une idée, parce que des idées, on en a plein, tu mets sur le papier, tu as une to-do list qui est longue comme le bras, et tu dis, bah, j'aimerais bien faire plein de talks, tu vois. Mais comment tu arrives à passer de cette idée abstraite à une conf, conf concrète, en fait, un vrai truc.
Alors, Je vais juste rajouter un truc sur trouver son idée. Moi, j'accompagne depuis un moment pas mal de gens à faire ça, et même des entreprises à faire ça. Des fois, on vient me chercher pour du coaching en public speaking. Et j'ai développé ma propre méthode d'idéation qui te permet, même si tu n'as pas d'idée à la base, en fait, de ressortir avec des idées, scopées, etc. pour une conférence, que j'appelle c'est de la cristallisation. Il faut que j'open source ce truc. J'ai jamais eu le temps de le faire, mais je le ferai. Donc peut-être que si vous me suivez, hein, peut-être que dans les mois qui viennent, j'arriverai à sortir un article sur ça. Mais donc une fois que tu as... avec ce mécanisme d'idéation, pour moi, tu as déjà tout pour le rendre concret. Donc, le truc, c'est que pour pouvoir concrétiser ton idée, ce n'est pas un sujet, en fait. Dire, j'ai envie de parler de TDD, pour moi, c'est juste le sujet. C'est le sujet, c'est plutôt le thème plutôt que le sujet. Et pour pouvoir aller dans le concret... Bon, j'en ai parlé plusieurs fois, il faut que savoir à qui tu t'adresses. Donc à plutôt débutants ou des gens qui ne connaissent pas React ou qui ne connaissent pas le TDD ou des gens qui font du TDD mais qui ont l'habitude de le faire d'une certaine manière, genre en inside-out. Et moi, ce que je veux leur montrer, c'est l'outside-in, enfin tu vois, bref. Ce qui est super important, et c'est peut-être le truc le plus important, c'est quoi les takeaways de ta conf? Ça, c'est énormément le truc qui va driver sur le fait que tu vas réussir à réaliser ta conf et à transformer ton idée abstraite en quelque chose de concret. Donc, les takeaways, c'est vraiment ce que les gens vont retenir de ta conf, ce qu'ils sauront faire une fois que ta conf, en fait, ils l'ont vu, et aussi potentiellement ce qu'ils sauront faire, ce qu'ils vont en retenir. C'est ça. Ce qu'ils sauront faire, ce qu'ils sauront retenir. Et donc, ça, c'est important de le qualifier. Il faut vraiment le qualifier. Par exemple, tu me dis, je fais un talk sur le TDD. OK, mais quand les gens ils sortiront de là, qu'est-ce qu'ils auront appris, en fait? Si c'est juste, OK, ils auraient compris ce que c'est le TDD, ça ne marche pas. Il faut qualifier plus. Ils auront compris que le TDD, ce n'est pas une méthode de test, mais une méthode de design. Que le TDD, en fait, je ne sais pas, ça peut être le côté... l'intérêt de chacune des phases, pourquoi en fait tu ne fais jamais de refacto en même temps que tu changes ton comportement, enfin tu vois, tout ça va énormément te driver pour réaliser. Ça va te donner ton contenu qualifié, tu vois. Parce que cette promesse-là, en fait, tu l'as fait dans ton abstract. Donc en fait, quand tu es obligé de rédiger une description de ton talk que tu vas soumettre quand tu vas candidater, et cette description va servir aussi à la sélection de ton talk, mais aussi aux attendees, en fait, à choisir ton talk pour aller le voir. Et donc, ils vont se baser sur la promesse que tu fais là-dedans. Et donc, tu as tout intérêt à ce que ce soit clair pour que déjà, eux, ils savent de quoi tu vas parler. Et donc, comme tu as fait une promesse, toi, ça va te permettre de te guider sur comment tu réalises le truc. Mmh. C'est pour ça que pour moi, en fait, très souvent, ce que je fais, j'ai quasiment jamais créé de conférence avant d'avoir postulé et qu'elle soit prise, pour plusieurs raisons différentes. Mais en fait, souvent, quand... la première raison, c'est que généralement, quand tu débutes, tu as un taux de sélection qui va être faible et c'est normal, en fait. C'est assez dur de, quand même, hein, d'être pris. Tu vas avoir peut-être un sur 5, un sur 6, sur ce que tu postules, des trucs comme ça. Et donc, en fait, si tu commences à créer tous tes taux qui peuvent te prendre du temps avant de... avant de postuler et qui sont jamais pris, bah en fait t'as peut-être appris pour toi, mais tu vas jamais les donner potentiellement, tu vois. Sauf si tu veux les donner en meet-up où il y a moins de sélection. Mais donc en fait je commence toujours par qualifier ça, et donc j'invite souvent les gens à faire ça et de postuler avec, voir du coup ça te permet de faire presque un MVP du truc, mais juste sur la promesse et voir si ça intéresse. Si t'es sélectionné dessus, ça veut dire que t'apportes vraiment la bonne valeur. Si tu t'es pas sélectionné dessus, tu peux te poser la question du coup. J'ai peut-être changé, parce que tu peux aussi demander du feedback des fois au comité de sélection. Ils le font pas tous parce qu'ils vont avoir énormément de talks à revoir, enfin à donner du feedback, mais ça te permet justement d'améliorer ta proposition déjà. Et donc tu pars sur cette proposition, tu sais les promesses que tu vas donner, et là l'étape d'après c'est en fait créer un peu ton plan. Donc comment tu crées ton plan? En fait, pour moi, c'est tu dois qualifier les. Alors, moi, je ne décorrèle pas le storytelling du contenu. Parce que pour moi, pour faire un talk engageant et pour s'assurer que les gens se. Restent attentifs à ce que tu dis, tu es obligé d'avoir un storytelling que tu penses en même temps que ton contenu.
Ok, donc pour toi. En plus, c'est un conseil que j'ai donné il y a deux semaines à quelqu'un qui voulait faire un truc en interne. Je lui ai dit, tu réfléchis au fond et après tu réfléchiras à la forme. Pour toi, tu réfléchis plutôt le fond et la forme en même temps, en fait.
Ouais.
Ok.
Alors, je dirais que si t'as pas l'habitude, pour la première fois, tu peux ne pas avoir un storytelling trop très présent ou très travaillé, c'est pas grave parce que c'est quand même un travail en soi, quoi. Et il faut y aller petit à petit. Mais je dirais que le premier truc, si tu veux faire du storytelling, tu es obligé de penser aux deux en même temps. Mais en fait, on s'entend peut-être pas exactement quand je parle de storytelling. Le storytelling, c'est pas forcément le côté l'enrobage, la forme, en fait. Au sens, les artifices, tu racontes une histoire, etc. Ça en fait partie. Mais on n'en est pas là encore. Pour moi, le storytelling que je parle là, c'est plutôt le storytelling de comment tu racontes l'histoire de ton talk. Pas je rajoute de l'enrobage, mais vraiment comment je présente les choses. C'est ça dont je parle quand je parle de storytelling. Donc, tu n'en es pas forcément encore à la forme du genre, tu vois, quand O2, j'ai pris le thème du Grand Budapest Hotel. Donc, j'arrive, j'explique que je suis responsable de la sécurité de l'hôtel, qu'il y a des convives qui se tapent dessus parce qu'il y a des chambres qui sont squattées. Oui, ça, ce storytelling-là, c'est de la forme, on va en parler après. Mais là, le storytelling dont je parle, c'est en fait comment tu structures tes idées pour que l'histoire, en termes de contenu, hein, je parle juste, ça a un sens et que ça permet la compréhension progressive des gens sur le sujet et comment tu maintiens l'attention des gens. Parce que souvent, les gens font des trucs hyper scolaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire thèse, antithèse, synthèse ou plan du talk. Ok, je me présente. Ensuite, je te parle de mon expérience. Ensuite, je te parle du problème. Ensuite, je te parle de la solution. Ça peut marcher, ça, hein, c'est pas un souci. Mais en fait, faut savoir que les gens ont une capacité de concentration en communication descendante assez courte. Donc, tu vois, les TED Talks, ils ont un format à 16 ou 18 minutes parce qu'ils considèrent que c'est la durée maximale de concentration d'une personne quand elle écoute quelqu'un, tu vois. Quand tu fais une talk, alors imagine un talk de 50 minutes, alors imagine un talk de 3 heures, j'ai déjà fait ça aussi. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles pour que les gens puissent t'écouter. Sinon, ils vont décrocher. Et ils vont tout le temps décrocher, c'est normal, c'est humain. Donc, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est la Sparkline de Nancy Duarte, qui est quelqu'un qui a comment expliquer ça ? Qui a analysé des discours qui étaient très impactants dans l'histoire, notamment ceux de Martin Luther King, le premier speech de Steve Jobs quand il présente l'iPhone, en fait. Et elle a analysé et elle a trouvé une structure commune à tous ces speeches, en fait. Et elle s'est rendue compte que tu avais une alternance, en fait, de deux états systématiquement dans le discours, qui était le what is et le what could be. Donc ils passent leur temps à t'expliquer, à te décrire la situation. Par exemple, typiquement Steve Jobs, quand il présente l'iPhone, enfin, d'abord il te prend un smartphone de l'époque. Enfin, c'était pas un smartphone, on appelait ça des PDA. C'était même l'époque des PDA pour les vieux comme moi là. Et donc en fait, en gros, tu as des touches physiques pour lancer l'application d'email, la recherche sur internet, etc. Et il disait, en fait, c'est chiant parce que aujourd'hui, si tu veux rajouter une nouvelle fonctionnalité sur ton téléphone, bah il faut rajouter une touche. Mais sauf que c'est chiant parce que ça te fait un clavier qui est plus gros limite que ton écran, et c'est pas infini, quoi. Et donc c'est super chiant, tu vois. Et donc ça, c'est le what is et le what could be. Et imaginons qu'en fait, au lieu d'avoir ce clavier physique, on le dégageait, et que en fait, de manière, à chaque fois que tu peux en plus installer des applications dynamiquement, au lieu d'avoir le truc qui est lié à ton téléphone de manière dure là, et qu'à chaque fois, bah ça apparaît sur ton écran et t'as juste à cliquer dessus. Ça, c'est le what could be, en fait. Et donc là, en fait, tu suscites de l'intérêt parce qu'en fait, tu décris une situation problématique dans laquelle les gens se retrouvent. Et le what could be, c'est en fait, tu fais l'ouverture sur ce que pourrait être une solution. Et après, tu présentes bien sûr le truc. Et là, le mec, il te sort l'iPhone. Et il fait ça tout le temps, en fait. Ils font ça tout le temps, en fait. Et en fait, je me base là-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, je subdivise systématiquement mon discours. Déjà pour monter au fur et à mesure en complexité. C'est le premier truc à faire, ça. Il faut que ce soit un peu crescendo. Et ensuite, je présente toujours, je parle d'un contexte dans lequel la personne se retrouve. C'est-à-dire que, par exemple, un truc sur, je sais pas, sur le TDD, c'est est-ce que t'as pas l'impression qu'à chaque fois que tu changes ton code, t'es obligé de réécrire tous tes tests, que tes tests sont des tests d'implème, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et si on avait un truc qui en fait était plus orienté sur le comportement, tu vois. Et bon, bref, je ne vais pas refaire l'histoire du TDD, mais tu vois un peu l'idée. C'est... Donc, le what is, donc tu parles du problème. Tu parles d'un contexte. Tu prends du recul et en expliquant quel est le problème. Et puis après, tu parles de ta solution. Et il faut que cette solution-là, ça redevienne en fait un nouvel état de fait. Enfin, un nouveau... tu dis, OK, c'est bon, on a déjà... tu vois, par exemple, sur le TDD, on a écrit... maintenant, on écrit nos tests avant, orienté comportement. Donc, on a spécifié exactement ce qu'on voulait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est OK, on a résolu un premier problème. Le deuxième, c'est... ouais, mais regarde, en fait, si je fais du TDD en inside out, de manière complètement sans le dire, au bout d'un moment, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah, quand je... construis mes briques au fur et à mesure, bah, j'arrive pas à construire toute ma feature, j'arrive pas à mon contrat de feature, en fait, en haut. Ah ouais, mais peut-être que parce qu'on a une démarche qui est trop bottom-up et qui nous faut un truc qui fait un peu plus top-down, donc ça c'est la double boucle de la TDD par exemple. Et en fait, tu vois, à chaque fois tu présentes ta nouvelle solution, en fait tu vas parler de ses faiblesses pour l'enrichir. Donc il faut savoir découper son sujet comme ça. Ou des fois, tu vas simplifier, du genre, c'est ce que j'ai fait moi sur mon talk de l'architecture hexagonale, tu vois, je ne parle pas tout de suite dans mes adaptateurs d'avoir mes DTO qui sont différents, en fait, tu sais, de mes classes dans mon domaine versus mes DAO aussi qui sont différents. Au début, j'aligne tout et après, je monte le problème, je fais, bah tiens, regarde, je change mon domaine et je pète mon API, tu vois. Et donc après, j'explique l'intérêt, tu vois, du coup, de... Et en fait, tu fais comme ça du crantage, et à chaque fois que tu amènes une solution, ce qui devient une nouvelle situation, en fait, les gens, ils baissent en attention, tu vois, ton cerveau, il fait « Ok, c'est bon, j'ai compris, tout va bien », et puis bam, tu leur mets un problème dans la face. Du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il se remet à écouter, parce qu'il se dit « Oh là, en fait, il se passe un truc ». Tu vois ce que je veux dire?
Tu sors un peu de sa zone de confort d'écoute.
C'est ça.
Dans le sens où tu te dis, je commence à comprendre, j'ai peut-être besoin de moins d'attention pour la suite, parce que du coup, bah, c'est bon, j'ai compris l'idée. Et là, du coup, tu le relances, tu te dis, en fait, non, là, je te donne le contexte, mais avec le contexte, voilà la problématique et voilà la solution. Non, on n'est pas une solution, mais voilà ce que je propose.
C'est ça. Et en fait, il faut toujours, pour moi, être dans le démonstratif et pas dans le déclaratif. Souvent, quand les gens font des sujets, ils vont dans le déclaratif. Ils vont te dire « Ouais, Kubernetes, c'est mieux parce que ça, parce que ça, parce que ça. » Mais c'est toujours plus impactant si tu leur montres le problème et qu'après, tu leur montres la solution. Si tu montres tout de suite la solution, les gens, ils vont « Ok, comprendre. » Mais ce sera beaucoup moins ancré en eux, tu vois. Et quand tu montres tes tests d'implém, en fait, tu pètes tes tests, vaut mieux que tu fasses un petit bout de code où tu changes l'implém et tu dis, en fait, le comportement n'a pas changé et tu montres que tous les tests sont rouges. Les gens, ils vont retenir ça. Dire oralement, vaut mieux faire des tests de comportement, ça a moins d'impact, en fait, tu vois.
Ouais, bah, de toute façon, tu peux faire le parallèle avec quand tu fais un kata et que tu regardes un kata. Tu regardes un kata, tu fais, ouais, ok, j'ai compris, enfin, tu l'as fait devant moi, je comprends l'idée, mais quand tu le fais toi-même, tu fais, ok, je vois le vrai problème. Du coup, tu es plus attentif à ce que tu fais, quoi. Du coup,
à la grosse différence que le kata, tu vois quand même toutes les étapes, mais en fait, tu es quand même dans le démonstratif. Là, c'est vraiment dans le sens où si je te présente le TDD, je vais pas te dire. Enfin, au-delà du fait de dire. En fait, en écrivant tes tests avant, tu seras moins adhérent à ton implémentation. En fait, tu le démontres. Et après, tu prends du recul et t'expliques, en fait. Le truc. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc être dans le démonstratif. Et ça va énormément structurer le talk. Et en fait, il faut subdiviser en étapes. Tu vois, tu subdivises en étapes. Ce qui est important, c'est de timer ces étapes. Donc moi, je fais toujours un espèce d'MVP de mon talk où je me fais d'abord l'essentiel de mon talk. Je subdivise en étapes et je me dis, je vais mettre 10 minutes là, 15 minutes là, etc. pour voir si j'ai pas trop de contenu déjà. Tu vois, et que j'ai pas des problèmes d'équilibre dans mes sections. Et chacune de mes sections, en fait, je les travaille comme ça. Sachant que les transitions les plus importantes, c'est quand tu passes d'une section à l'autre. Parce que, en fait, il faut bien que les gens comprennent, en fait, que tu parles d'autre chose. Et donc, en fait, c'est les trucs les plus importants. C'est vraiment de se dire, là, je change d'idée, il faut transmettre ça à ton public. Et en fait, à chaque section, tu listes quel est l'objectif de la section et tu vérifies que tous les objectifs de ces sections, en fait, matchent avec la promesse que tu as fait, tu vois, dans ton abstract. C'est pour ça que je dis que ça drive beaucoup, tu vois. Il faut que tu ventiles les promesses de ton abstract, en fait, sur tes sections. Et après, chaque section, du coup, tu as tes objectifs et tu vas dans la réalisation, en fait, avec la technique que j'ai donnée là.
Ok. Je me permets, ça se trouve que je me trompe totalement, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait tes talks, avant de me parler avec toi, le talk je le voyais vraiment en mode cycle en V, j'ai un point d'entrée, j'ai un point de sortie, et une fois que c'est fini, tu vois. Alors que toi, j'ai l'impression que tu subdivises beaucoup. Ouais, en effet, t'as ton point d'entrée, t'as ta sortie qui est la conf, mais comme tu subdivises, t'as des sujets bien définis, tu dis là je vais parler de ça avec une transition vers autre sujet. En fait, si je fais un parallèle avec le travail, j'ai l'impression que tu fais limite des sprints de conf, quoi.
Ouais, c'est plus qu'en fait j'ai une stratégie itérative. Oui, effectivement, tu peux le voir comme ça. J'ai une stratégie itérative où en fait je le fais comme ça, mais c'est aussi pour structurer l'idée. C'est-à-dire que d'abord, ça, tu le poses. Après, tu te lances dans la réalisation de chacune de tes étapes. Après, je ne dis pas qu'il faut tout le temps commencer par la première étape. C'est-à-dire que quand tu fais un live code, ce qui est important, c'est de commencer par ce que tu veux montrer d'un point de vue code avant de te lancer dans... Parce qu'il y a des trucs qui, techniquement, ne sont pas vraiment faisables, etc. Donc, il faut très vite que tu saches ce que tu veux montrer et d'essayer de le faire pour voir si ça marche. Mais ouais, sinon, en tout cas, pour la structuration du contenu, c'est comme ça que je fais. Après, là où moi, en fait, tu peux avoir l'impression que des fois c'est du cycle en V, c'est que des fois j'instille des problèmes que je réponds pas tout de suite Et en fait, c'est au fur et à mesure que du talk, tu vois, si tu prends mon talk sur REST, en fait, je te montre la solution au tout début du truc du début à la fin. En fait, c'est une manière aussi de maintenir l'attention des gens. Alors, des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas du tout le suspense, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé ce truc-là sur cette partie-là. Mais après, c'est un de mes talks qui a le plus cartonné. Hein, mais tu as des gens qui préfèrent être directement straightforward. Mais ouais, en fait, être itératif, de toute façon, c'est ce qui te permettra de réaliser ton talk de manière la plus. Enfin, si tu le fais en cycle en V, en fait, quand tu vas répéter la première fois, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais 1h30 de contenu pour un truc de 45 minutes, quoi. Je me joue là mon talk au bout de 45 minutes, en fait, enfin, je me rends compte que j'ai fait la moitié de mon talk. Donc ça va pas. C'est pour ça que tu as tout intérêt à sizer ça petit et le faire et d'appliquer ce qu'on fait quand on. Enfin, tu peux voir comme un produit, en fait, le truc, hein, clairement. Hein.
Alors, ça, c'est une question. Après, je pense que les gens sont un peu curieux. Moi, je suis curieux. Mais je pense que ça dépend des confs. Mais si tu devais te donner un ordre d'idée de combien de temps ça te prend pour faire une conf, tu vois. Là, ça te fait rigoler, parce que j'imagine que ouais, c'est très. J'imagine que comme tout ce qui est process créatif, c'est dépendant aussi de, bah, de ta créativité à un instant T. Donc, est-ce que tu as une
Alors,
réponse là-dessus, tu vois?
moi, ça me prend de plus en plus de temps.
Naturellement, j'aurais dit l'inverse, en fait.
Ben non, parce que je prends de plus en plus de risques. En fait, si tu regardes mes premiers talks, tu vois, reste. Enfin, je mets plus en plus d'animation, des trucs comme ça. Je faisais pas ça avant. Le tout dernier talk, tu vois, que je fais, qui s'appelle Modèle Mitosis, là, qui parle de comment tu modularises ton soft quand il évolue et de plus te tromper entre les microservices et le monolithe, en fait. C'est 200 heures de taf à deux. Et pour pouvoir l'adapter en 45 minutes, c'est-à-dire qu'on l'a fait en 50 minutes, là, on va le présenter à Devox cette année, là. Et c'est déjà l'adaptation, ça nous a pris, enfin, moi tout seul, plus de 2 jours de boulot, tu vois. Mais c'est parce que c'est un talk qui a beaucoup de code et dont on a une forme aussi très complexe. Je vais pas spoiler parce que c'est mon talk du moment, mais bon, bref, si tu veux, on s'est amusé à coder de l'IA, des trucs comme ça. Enfin,
Oh bah,
IA.
si les gens veulent voir, ils iront voir,
Oui,
hein.
c'est ça. Et en fait, il y a des trucs. C'est vraiment, on est allé plus loin dans l'entertainment. Et en fait, je fais du montage aussi. Tu vois, j'ai des intros qui sont que je fais en After Effects. Ça, au début, quand t'as pas l'habitude, ça te prend du temps. Donc c'est pour ça que ça me prend de plus en plus de temps. Et je fais aussi des sujets de plus en plus compliqués. Tu vois, la loi de Conway, c'était des dizaines d'heures de recherche.
Pour l'avoir vu juste aujourd'hui, en fait, parce que je ne l'avais pas vu ce matin, bah, j'avais un peu de temps, je l'ai vu. Et ouais, t'as charbonné en termes de recherche, parce que c'est
Ouais.
pas.
Non, mais c'est beaucoup de recherche. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça. En fait, moi, je fais des. Comme j'en donne beaucoup, je fais des talks plus compliqués à réaliser. Je prends plus de risques sur le sujet, je prends plus de risques sur la forme. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas forcément un exemple là-dessus, parce que, enfin, ou le cas standard, on va dire. Mais je dirais que, en fait, ouais, un talk, on va dire, un peu plus classique, ça va te prendre 20, 50 heures selon comment tu travailles. Si tu es quelqu'un qui a besoin de répéter beaucoup, plus tu fais du live code, plus ça va te prendre du temps. Surtout plus tu fais des sujets qui sont liés à l'archi, plus tu vas devoir coder de choses en plus. Donc ça, c'est du temps qui n'est pas négligeable. Donc ça dépend beaucoup du type de talk que tu fais. Typiquement, tu vois, mon talk sur l'archi exa, la première fois que je l'ai donné à Alpecraft, l'archi exa, je connaissais ça. Enfin, je connais ça extrêmement bien. Je t'ai fait un truc from scratch et il m'a pris 3 jours le talk pour le construire. Quand je dis 3 jours, c'est pas ces 3 jours-là, c'était pas 3 jours entiers. Hein. C'est vraiment au bout de 3 jours, je l'avais fait. 3 jours, je l'ai créé le talk. J'avais pas de slide parce que en fait, à la base, c'était qu'un live code. Je l'ai rechangé après. Enfin, je l'ai agrémenté après. En 3 jours, je l'ai fait. Tu vois, c'est un des talks que j'ai fait en le plus rapide parce que je maîtrise très bien le sujet, etc. Il n'y avait pas de forme particulière à l'époque. Après, je l'ai retravaillé pour le Basecamp l'année dernière et j'ai rajouté de la forme, j'ai rajouté plus de choses en termes de. Et la forme va coûter cher en fait d'une certaine manière. Moi, je le fais parce que ça m'amuse et parce que c'est. J'aime bien amener une expérience aux gens en fait, mais cette partie-là coûte plus cher. T'es pas obligé. Les gens ne sont pas obligés d'aller jusque-là. C'est juste que moi, je me permets de le faire parce que j'ai le temps pour le faire et j'ai. Et comme je tourne beaucoup, je me permets de prendre plus de risques. Mais ouais. Donc ça dépend beaucoup de ton sujet, ça dépend aussi du format. Bah, bien sûr, quand tu vas faire un talk de 3 heures, ça va te prendre beaucoup plus de temps que si tu fais un talk de 15 minutes.
Que tu me travaillais sur un talk qu'à partir du moment où il avait été validé.
Sélectionné, ouais.
Ouais. Est-ce que quand tu proposes le sujet, tu as déjà à peu près une idée du nombre d'heures que ça va te prendre? Ce que tu dis là, par exemple, sur la dernière, ça t'a pris 200 heures.
À
Est-ce que
deux, ouais.
tu savais avant que ce talk allait te prendre beaucoup plus de
Maintenant,
temps?
ouais. Ouais, maintenant, ouais. Au début, tu sais pas ça. Maintenant, ouais. C'est-à-dire que tu vois, mon tout premier talk qui était comment trouver des vulnérabilités dans ses dépendants, je sais plus en combien de temps je l'ai construit. Mais ça doit être du vingtaine d'heures, ça, je pense. Mais après, j'ai fait un talk, c'est comment se faire hacker bien comme il faut, où j'ai codé un back et un front de manière un peu standard et je l'ai hacké. En démontrant je faisais du live hacking en fait. Ça m'avait pris déjà une centaine d'heures. En fait, je sais juste que si je vais beaucoup sur de l'archi complexe avec des concepts très complexes, avec plein de trucs que je suis obligé de coder même si les gens le voient pas, parce que sinon ça va pas fonctionner en fait. Ça, je sais que c'est le tarif minimal, c'est une centaine d'heures. Mais l'archi exa, par exemple. Bon, même si c'est de l'archi, sur un use case très simple, je te dis en 3 jours je l'ai fait, donc ça devait être une vingtaine d'heures, un truc comme ça, 20 ou 30 heures. Donc avec l'expérience, je sais, mais typiquement, tu as des sujets qui sont plus compliqués, enfin des sujets que je maîtrise moins. Bah, quand je vais les construire, ça va me prendre du temps. Tu vois, ça dépend. Ça dépend. Je sais plus en combien de temps j'ai fait mon talk sur Haute 2, mais après, ça pour le coup, je connaissais très bien Haute 2. Mais je sais que je l'ai fait en deux versions et quand j'ai commencé à mettre de la forme, c'est pareil, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc maintenant, en fait, mon tarif, c'est une centaine d'heures, quoi qu'il arrive. Mais parce que moi, je fais des trucs très complexes. Enfin, si tu regardes mon talk, il y a des trucs, tu as des animations CSS, tu as des animations entre les slides, tu as tout le storytelling aussi que je travaille avec. Enfin, là, pour le coup, sur la forme. Avec de la musique, avec tout ça, trouver les bons assets pour le faire, faire les montages et tout, ça prend du temps, tu vois.
Ah, mais bah après, ça prend du temps, mais derrière, tu arrives à mieux le vendre. Vous pouvez pas le voir, mais je mets des guillemets. Parce que bah, sur la loi de Conway, je crois, je sais plus si c'était Devox ou autre, ils en parlaient. Et justement, l'aspect, la forme, que du coup, que tu prends plus de temps avec des trucs en After Effects et tout,
Ils en parlaient, c'est-à-dire.
bah, ils disaient que la forme allait être un peu plus. Enfin, il allait avoir un peu de show, encore une fois, entre guillemets, tu vois.
Ah ouais, je me rappelle pas de ça.
Ouais, mais je sais plus où c'était, mais je l'avais vu comme ça. Mais ouais, du coup, bah après, quand on connaît un peu tes confs, on sait, en fait, c'est un peu ta patte de
Ouais.
conférencier de, il y a le sujet, il y a le fond, il y a la forme, ou le storytelling que tu dis, donc le split en différentes parties pour garder l'attention des personnes, et il y a la forme finale, on va dire,
Ouais.
de, bah, j'ai l'impression que tu aimes bien que les gens, plus que t'écoutes parler et apprécient le sujet, aussi la forme du truc, elle
Ouais,
soit
c'est
inscrite, quoi.
l'expérience. Mais c'est aussi parce que ça. En fait, si tu arrives à raconter, tu vois, une forme, une histoire, on va dire un peu. Ça plonge les gens dans le sujet, en fait. Et ça permet aussi de mieux capter leur intention. Tu vois, c'est aussi pour ça que je fais ça. Et il y a le côté créatif, etc. Mais j'arrive pas toujours à trouver une forme, en fait, spéciale pour mes sujets. Typiquement, avec Yann Dano, on a fait un truc qui s'appelle Y en a marre du software craftsmanship. Là, on n'a pas réussi à trouver une forme spéciale, en fait, pour parler de ce sujet-là. Et il faut pas forcer la forme, si ça marche pas, en fait. Parce que sinon, tu vas avoir une forme au détriment de ton contenu et c'est pas terrible. Donc là, on est sur un truc plus classique, où on s'adresse directement au public, où on raconte pas d'histoire à part ce qui nous est arrivé, quoi. Et notre analyse du problème, mais tu vois, c'est pas systématique. T'as des trucs, des fois, ça vient. Typiquement, quand j'ai fait. Bah, la première fois que j'ai fait du storytelling comme ça, c'était dans comment se faire hacker bien comme il faut. Et en fait, je me suis dit, bah, en gros, souvent, ce qu'on dit en sécurité, c'est que les gens, ils ont tendance à croire que tout va bien. Donc, tout de suite, ce qui m'est arrivé, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et qui est une citation du bouquin de Candide de Voltaire. Et je me dis, bah, en fait, pourquoi je ne parlerais pas. En fait, du coup, c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de raconter l'histoire de Candide, tu vois, qui est le personnage du bouquin. complètement ingénu et qui un peu naïf aussi. Et pour moi, c'était le développeur, tu vois, qui codait un peu avec ses croyances, enfin, qui sont très communes d'ailleurs. Et voilà. Et puis après, en fait, ce qui était marrant, c'était que j'ai pris des failles de sécurité connues. Au bout d'un moment, à l'époque, c'était, je parlais d'Ashley Madison, qui a un site de rencontre, comment dire, orienté à l'adultère, quoi, tu vois, et qui s'était fait péter à l'époque, et toutes les données étaient devenues publiques parce qu'il y avait une faille où ils avaient du MD5 dans le hashing de leur mot de passe. Et en fait, du coup, j'ai intégré ça dans mon histoire où j'ai raconté qu'en fait, il était sur ce genre de site, tu vois. Du coup, tu vois, c'était... Mais parce que... Et après, bah, c'est comme un peu là avec la loi de Conway. En fait, dans la loi de Conway, au bout d'un moment, bah, si vous le regardez, je parle d'un cabinet de conseil très connu sur lequel je fais la démonstration en fait, de la loi de Conway sur leur site. Mais en fait, quand je fais le talk à la base, j'ai pas idée d'aller prendre eux, tu vois. Et du coup, en fait, je raconte une histoire comme quoi tu es obligé, enfin, pour ton. Un truc qui s'est passé dans l'actualité française, où ils sont. Ouais, bref, un comité de conseil qui est censé avoir aidé l'éducation nationale, enfin voilà. Donc je dis que tu travailles pour l'éducation nationale, on te demande de faire appel à eux, tu vois. Et ça, c'est l'histoire. Mais elle est basée sur le fait qu'en fait, que j'avais trouvé leur site qui matchait très bien avec mon propos. Et en fait, j'aurais trouvé le site de quelqu'un d'autre. L'histoire a été complètement différente, tu vois. Mais c'est pas toujours facile de trouver une histoire autour, tu vois.
Ouais, bah, là après, bon, quand je l'ai vu, parce que du coup, ouais, quand je l'ai vu, je me dis, bah, j'imagine que c'était très propre à l'actualité à ce moment-là. Tu te dis, bah, tiens, je vais faire quelques recherches par curiosité, et t'as fait le truc, et t'as fait, ah, tiens, ça match parfaitement avec Exactement. Le sujet sur lequel je veux parler, tu vois.
C'était pas ma première idée. J'ai essayé plein de trucs et au bout d'un moment, je suis tombé sur eux et j'ai fait « Oh, mais trop bien, c'est exactement le problème. » Et voilà. Et après, par coïncidence, c'est un truc qui se passe dans l'actualité. Je me dis bah, « Les gens sont au courant de ça, enfin plus ou moins, enfin quand même. » Et du coup, je parlais de ça, ça va être marrant. Alors du coup, ça marche bien en France, ça marche moins bien à l'étranger parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans notre politique. Mais ouais, tu vois, c'est comme ça que souvent l'idée des fois de la forme me vient. C'est... mais pas tout le temps.
Enfin, ouais, bah après, comme tu disais, vouloir toujours mettre une forme à un sujet peut perdre l'intérêt du sujet. En fait, tu perds le fond au détriment de la forme. C'est un peu, c'est dommage quoi.
C'est plutôt l'inverse.
Tu perds le fond au détriment de la forme.
Non, c'est plutôt t'as la forme, tu perds le fond au détriment de la forme. Non, c'est au détriment du fond.
Oui, pardon. Oui, autant pour moi.
c'est au détriment du fond, mais oui, c'est ça.
Ok. Alors, du coup, là, t'as trouvé l'idée. Bah, après, là, c'est un peu particulier parce que toi, t'as dit que tu faisais la conf uniquement quand tu avais déjà été validé.
Ouais.
Mais comment tu te fais valider en fait? Est-ce que t'as des conseils à donner pour écrire, pour soumettre un bon un bon CFP ou...
Bah, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans ton abstract, on doit facilement comprendre à qui tu t'adresses, de quoi tu vas parler et ce que les gens vont retenir. Ça, c'est primordial, tu vois. Donc, déjà, moi, mon abstract, je fais toujours... je ne fais pas toujours comme ça, mais c'est souvent ce que je conseille aux gens. Je le fais en trois étapes. Premier paragraphe, c'est tu poses un contexte dans lequel tu parles des problèmes et tu essayes de créer de l'empathie. C'est-à-dire que les gens... en lisant ce contexte, ils doivent reconnaître des problèmes qu'ils ont au jour le jour, tu vois. Et ça permet aussi de cibler plus ou moins le type de personne à qui tu t'adresses, notamment parce que soit tu vas poser plutôt des questionnements qui sont plutôt des questionnements de gens qui sont débutants sur le sujet ou plutôt des questionnements de trucs experts, tu vois. Tu vois, typiquement... le pattern du... comment faire transiter de l'information technique par mon domaine sans que mon domaine le voie en architecture hexagonale, ça va moins parler à des débutants qui ne savent pas ce que c'est l'architecture hexagonale, tu vois. Donc, c'était le stowaway pattern, ça, mais c'est un autre truc. Et en fait, oui, donc déjà, le questionnement. Ensuite, deuxième paragraphe, c'est la problématique. En fait, c'est le recul que tu prends sur ces questionnements et en fait, essayer de comprendre quelle est la problématique générale. Et c'est là, en fait, où tu vas poser le thème de ton talk. Et dernier paragraphe, c'est ce que les gens vont retenir de la conférence. Souvent, c'est aussi la forme. Est-ce que c'est un live code ou pas, ou un retour d'expérience? Et si tu as un storytelling particulier en forme, tu le mets là aussi. Des fois, je brande tout mon abstract sur le storytelling, ça dépend des endroits. Quand on avait fait le talk sur l'architecture au plastique hexagonale, là, avec Jordan Nouri et Adrien Joly, où on transformait un vrai soft open source qui a 10 ans en Node.js en architecture hexagonale, on a vu l'idée en fait de faire comme si c'était une opération à cœur ouvert en fait, et on s'est ramené en tenue de chirurgien et en fait tout l'abstract était orienté sur le médical du coup, donc c'était marrant, tu vois. Tu peux mettre une petite forme comme ça. Il y a des confs en fait qui ont des thèmes des fois, par exemple DevFest Nantes, tu vas avoir l'espace, le rock, etc. Ils aiment bien quand tu polarises avec leur thème. Voilà. Et le plus important, c'est le titre. Parce qu'en fait, les gens regardent surtout ton titre. Faut dire, le jour J, les gens ne vont pas sélectionner sur ton titre. Enfin, ils ne vont pas choisir ton talk sur le titre. Sur l'abstract. Parce qu'ils ont souvent que le titre, tu vois. Il y a marqué tel truc dans telle salle à telle heure. Donc il faut que ton titre soit hyper parlant, il soit catchy et qu'on comprenne très rapidement de quoi tu veux parler. Il y a un truc que je veux dire aux gens qui est hyper important. Vous avez tout intérêt à ce qu'on comprenne vite de quoi vous voulez parler, à qui vous vous adressez aussi. Parce que les gens, quand ils vont venir dans votre salle, s'ils s'attendaient à quelque chose d'autre, même si votre talk est super bien, et bah, ils vous donneront des feedbacks de merde. Parce que les gens, en fait, ne donnent pas de retour, enfin ne donnent pas de notes ou de retour sur ce qu'ils ont vu, mais sur ce qu'ils attendaient. Tu vois. Donc c'est super important ça je le redis hein, parce que les gens ils vont jamais te donner de feedback directement sur la qualité de ton travail et donc voilà, c'était juste un petit et donc ça me permet en fait de maximiser mes chances en fait d'être sélectionné. Il y a souvent en plus de l'abstract et du titre un autre truc à finir qui est à destination des organisateurs. Ils appellent soit le message aux orgas ou additional notes, etc. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Moi, ce que je conseille de faire dans ce champ-là, c'est un peu la lettre de motivation de son talk. En gros, tu dois expliquer pourquoi toi, tu penses que ça va apporter de la valeur aux gens. D'accord ? Donc, il ne faut pas paraphraser ce que tu as mis dans ton abstract, dans ta description, sinon ça ne sert à rien. Mais en gros, tu vois, moi, mon talk sur l'architecture hexagonale, là, le live code que j'ai fait, qui est un truc pour débutants, en fait... J'ai expliqué que pour moi, la valeur que j'y voyais, c'était que souvent, quand les gens te parlent d'architecture hexagonale, ils te le font soit avec des schémas, soit avec un truc déjà tout fait. Et qu'en fait, de voir le truc se construire au fur et à mesure en expliquant en fait, à chaque étape pourquoi elle était importante, tu le voyais peu, en fait, tu vois. Il n'y avait pas que ça, mais en gros, t'expliquer pourquoi ton truc est différenciant par rapport au reste, pourquoi tu penses que les gens en ont besoin, pourquoi toi, t'as de la légitimité pour en parler. Donc ça peut être, je sais pas, je fais des architectures hexagonales depuis 5 ans sur mon projet, etc. Enfin, tu donnes un peu ton contexte à toi et tu donnes ton plan détaillé, mais vraiment détaillé, enfin un peu plus détaillé que, enfin t'expliques et pas des trucs du genre je parlais du problème, j'ai parlé de la solution. Non, en fait tu dis quel problème, tu dis quelle solution en fait. Sinon ça permet en fait aux personnes qui vont te sélectionner de voir vraiment plus dans le détail de quoi tu veux parler. Et là, tu maximises tes chances. En plus, tu peux fournir tes slides si tu les as déjà faites, une vidéo de ton talk si ça a déjà été pris quelque part, ou dans un meet-up, ou une vidéo d'un autre truc que tu as déjà fait, ou tu peux même t'enregistrer toi, en fait, si tu voulais préparer à l'avance ton talk. Voilà les conseils que je donnerais pour faire en sorte d'être plus facilement sélectionné. Ouais.
Ok, en vrai c'est des bons conseils, t'en as donné plus que ce que je pensais, mais alors là la question c'est, toi t'as dit que tu t'avais fait plein de fois tes confs, en effet tu vois sur YouTube, t'as hôte à telle conf, hôte à telle conf, hôte ouais. à telle conf, est-ce que c'est toujours toi qui a fait la proposition, ou on est déjà venu te chercher parce que justement un organisateur de conf avait vu cette conf et dit ah mais ça serait cool qu'il puisse la faire ici.
Alors ça m'arrive mais c'est rare. C'est-à-dire qu'en fait typiquement l'année dernière j'ai donné une vingtaine de talks et il doit y en avoir deux où on m'a invité, tu vois, où les gens m'ont dit ah j'ai vu ton talk et ça m'intéresse que tu le redonnes là. Et même des fois ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse des commandes, c'est-à-dire tu vois Alpecraft c'était une commande, c'est vraiment en fait on m'a dit on aimerait enfin on a vu ce que tu sais faire sur l'architecture EXA, etc. Parce que j'avais écrit peut-être, je ne sais pas s'ils m'ont trouvé par mon article, etc. Et on aimerait bien que tu nous fasses un talk débutant sur l'archi EXA. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, ça m'arrive une à deux fois par an, ça. Alors, les commandes, ça m'est arrivé deux fois, je crois, voire trois. Invité, ça m'arrive une à deux fois par an, mais sur la vingtaine de talks que je donne. Et quelque part, je trouve ça assez sain de devoir être sélectionné à chaque fois, parce que le problème d'être tout le temps invité, je trouve que tu sais plus si tu es invité parce que tu connais les gens, parce que bah, faire suivre, quand tu donnes 20 talks, tu commences à connaître un peu tout le monde, mais tu sais plus si tu es invité parce que les gens te connaissent ou par la qualité de ton travail. Et moi, j'aimerais pas tomber dans une espèce de, tu vois, zone de confort, de savoir que je suis sélectionné pour ce qui je suis et du coup de perdre en qualité, tu vois. Donc moi, la grosse majorité de fois où je suis pris, à 99%, je dirais, c'est parce que j'ai postulé. Hein.
Ok. Mm. Et du coup, bah, après ça, tu l'as dit tout à l'heure en disant que tu avais retravaillé ta conf sur l'archi EXA. Est-ce que tu refaçonnes à chaque fois tes confs, tu les retravailles tout le temps à chaque fois, on va dire par exemple, on va dire aux hôtes, tu ouais. dois la refaire demain, est-ce que tu vas revenir dessus en disant ce sujet, peut-être le revoir un petit peu différemment ou...
Ça arrive. Alors, si tu veux, pour moi, le taux qui souvent, enfin d'expérience, je trouve qu'il a atteint son niveau de maturité une fois que tu l'as donné 4 fois, 4 ou 5 fois. En fait, tu vois, aux hôtes, la première fois que j'ai donné, il avait un scope beaucoup plus grand et je n'avais pas réussi à mettre tout ce que je voulais dedans, en fait. Et quand il a été pris à notre compte, je me suis dit, non, il faut que je le retravaille. Et puis après, j'ai eu des retours, où même moi, je me suis dit, il faut que je le refasse et je l'ai retravaillé au fil de l'eau, quoi. Maintenant, quand je le redonne, enfin là, je vais le donner plus d'une dizaine de fois, bah, je n'ai plus trop besoin de le retravailler. Mais oui, en fait, je ne m'arrête pas, je le donne une fois et c'est terminé, en fait. Je le donne et à chaque fois, j'essaye d'intégrer des améliorations en faisant un peu le tri des feedbacks qu'on me donne, de la manière dont les gens y comprennent. Pareil, si vous regardez les différentes versions de mon talk sur Conway, entre celui de la Flocon, celui de d'Evox, il y a des choses qui ont changé, en fait. Et même là, les dernières, si vous regardez celui que je vais le donner à l'Agile Tour New York, j'ai encore changé des trucs parce qu'en fait, j'ai trouvé des moyens de mieux expliquer les choses, tu vois, des fois.
Ouais, bon, de toute façon, moi, je le vois, en fait, je fais le parallèle, enfin, surtout... toi qui fais de les talks plusieurs fois, parce que c'est pas comme si moi je fais un talk, je sais pas si je le ferai une autre fois, enfin c'est déjà en fait moi je fais le parallèle vraiment avec un stand-upper, un humoriste, tu vois, ou qui fait des au début qui fait des salles pour roder son truc, et après tu vois, là après tu peux sur deux dates différentes, tu verras tout le temps quasiment la même chose, en fait, qu'il est plus mature, comme tu dis, au bout de 4 talks.
Ouais, c'est ça. Et juste un truc, pourquoi en fait je représente mon talk plusieurs fois, bah parce que je postule plusieurs fois, c'est parce que quand tu mets 200 heures à le créer et que t'es pas payé pour ça, parce que t'es pas payé, hein, enfin, tu fais ça bénévolement. Alors oui, moi, ma boîte me donne des jours et je fais ce que je veux avec, donc mon destaff, je peux créer des conférences, mais ils sont clairement pas suffisants pour créer des talks. Les conférences te payent pas pour ça, c'est du bénévolat. Donc en fait, tu dis, j'ai passé 200 heures et je l'ai claqué en 45 minutes, tu vois, et j'ai pas été payé, donc... Enfin, tu veux le rentabiliser un minimum. Outre le fait que, en plus, en le donnant plusieurs fois, tu l'améliores et t'arrives à et t'apprendre ton talk et tu l'améliores, en fait. C'est pour ça que moi je le présente plusieurs fois.
Je me permets, hein, tu l'as dit, tu le fais bénévolement. Mmh. Et c'est des trucs aussi que je dis aux gens qui essayent, tu vois, au sein de KB, de faire des talks et tout ça, enfin, qui sont curieux, qui aimeraient le faire. Ce que je leur dis aussi, c'est que justement, quand t'es pas payé pour ça, tu le fais bénévolement. En général, bon, quand tu fais des meet-up et tout ça, les gens qui viennent, c'est gratuit aussi. Mmh. Et c'est pour ça que je dis aussi, se rassurer dans le sens où les gens qui viennent ne payent pas pour ça et tu le fais avec ton temps, t'as investi ton temps. Donc, on parlait de légitimité au début. Ça aide à dire, mais faut pas se sentir spécialement légitime aussi, en fait. Le fait de présenter et de donner de ton temps à vouloir partager, est-ce que ça suffirait pas, tu vois?
Oui, alors c'est surtout vrai pour les meetups, c'est un peu moins vrai pour les confs, parce que t'as les confs où c'est 1000 balles le billet et t'as des gens qui payent ça de leur poche, ça arrive. Donc c'est vrai que t'es un peu plus exigeant quand c'est pas ta boîte qui l'a payé, quoi. Donc il y a un peu plus exigeant sur la conférence, mais t'as quand même raison, enfin tu vois, c'est.
Ok, en vrai, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet, en fait, parce qu'on a quand même bien parlé, hein, quand je vois le temps, la durée d'enregistrement. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu aimerais dire sur la conf? Parce que là, moi, mes questions sont finies.
Y a un truc important, c'est qu'il faut très vite jauger son niveau de stress vis-à-vis d'un public. Donc, quand vous préparez votre conf, essayez de le donner devant des collègues. Essayez, si vous pouvez, de le donner en meet-up ou en BBL. Et vous confrontez un peu à des gens devant vous, parce que si la première fois que vous le donnez devant des gens, c'est le jour de la con, vous risquez de pas savoir comment vous stresser. Et chaque personne stresse de manière différente. Et plus vous allez vous tester comme ça devant les gens, moins le jour J vous serez stressé. Et ça, c'est hyper important. Il faut gérer son stress. Clairement, il y a des trucs importants. Il y a des gens qui aiment pas le regard des gens, par exemple. Moi, j'ai un petit tips. En fait, tu prends 3 points fixes. Dans la salle, des zones différentes qui sont entre les gens, et tu regardes ces points fixes. En fait, au fur et à mesure, tu balayes comme ça la salle. Et en fait, tu regardes jamais personne, mais les gens le savent pas. Oui, ben. Du coup, comme ça, en fait, les gens, enfin, ils ont l'impression que tu regardes le public, mais en fait, tu regardes personne. Si t'aimes pas le regard des gens, tu vois. Des petits tips comme ça, faut bien souffler, mettre des temps de pause, notamment entre chacune des idées qui sont importantes. Quand on finit une section, on met un temps de pause. Ça permet à ce que les gens, en fait, impriment ce que tu dis. Si tu enchaînes trop, bah, ils ne vont pas comprendre que tu parles d'autre chose, etc. Donc ça, c'est important, parce qu'on n'a pas trop parlé de quand tu es sur scène. Mais voilà, en fait, gérer son stress. Et après, il y a plein de techniques de delivery. De toute façon, si les gens sont intéressés, ils peuvent contacter Craft Records. Et nous, on forme à tout ça, en fait.
Bah, j'allais justement en parler. Mmh. Hein, déjà... Comme je pense qu'on a fini sur le sujet. Hein. Mmh. Déjà, merci de ta dispo.
De rien.
Hein. Pour tous les auditeurs, je conseille en vrai les 50 vidéos différentes de Julien sur les différents sujets. Il n'y a pas 50 sujets. Bon, en vrai, je ne sais pas.
Il y en a 15, je crois, un truc comme ça.
Ouais. Mais en vrai, sur certains sujets, après, ça a différents types d'expertise. Enfin, c'est pour différents niveaux, mais sa conférence sur haute, j'ai adoré, et tout, etc. Et en effet, Craft Record pour les talks, en fait.
C'est ça. Ouais, donc après, si vous êtes intéressé par mon portfolio, vous tapez julientopsu.com, il y a tous mes talks. Et sinon, Craft Record sur LinkedIn ou sur Twitter, et on vous accompagne avec plaisir.
Okay. Voilà. Bon, personnellement, on verra peut-être, on en parlera peut-être.
Avec plaisir.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Because, et on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.
Au revoir.
Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.